Alors merci d'être venu pour cette table ronde donc, dans le cadre du Festival de science-fiction de Lyon, les Intergalactiques. Le sujet donc, de cette table ronde qui est en lien avec l'Université Lyon 1 dans le cycle de conférences des Et si on en parlait. Le sujet c'est créer, modifier le vivant, doit-on craindre pour l'avenir ? Donc, un sujet avec beaucoup de possibilités. Alors ici avec nous, nous avons donc Sylvie Lenné, donc professeure en sciences de l'information à l'Université Lyon 3 et auteure de nombreuses nouvelles de science-fiction. Nous avons également donc Sylvain Charlat, donc chercheur à l'Université Lyon 1 au CNRS sur la symbiose et l'évolution. Et Estelle Faye, du coup, qui a plusieurs casquettes. J'ai appris récemment chanteuse, elle est également actrice, auteure de livres pour adultes, enfants.
Adultes et ados, en fait. Mais enfants, c'est un projet.
Voilà. Donc, du coup, je vais commencer par vous poser la question, le titre, qu'est-ce qui vous inspire ? Doit-on craindre pour l'avenir, sur les modifications des êtres vivants, enfin de l'être humain, des êtres vivants en général ?
Si tu ne commences pas par quelqu'un de sérieux en interrogeant un scientifique, moi je parle en tant qu'auteur de science-fiction, et je vais dire tout de suite que le doit-on, pour un auteur de l'imaginaire, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que quand on est auteur, on fait bien ce qu'on veut, et si on a envie de dire des bêtises, on le fait. Donc on ne se préoccupe pas forcément de prospective. Ce qui nous préoccupe, c'est de parler de questions sérieuses, en prenant des hypothèses qui nous semblent intéressantes, mais il n'est absolument pas nécessaire de se considérer comme des prophètes, ce qui nous donne une grande liberté. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'envisager le pire tout le temps. Ça résonne beaucoup.
Mais si je peux rebondir sur ce qu'a dit Sylvie, moi, non seulement je n'ai pas du tout envie d'envisager le pire, mais même au contraire, disons que j'écris de la science-fiction parce que j'ai aussi envie de me rappeler que, justement, le meilleur est toujours possible. Et le meilleur, ça ne veut pas dire donc un monde de bisounours où la science nous aura tous rendus beaux, forts, intelligents et où on sera encore donc dans une santé merveilleuse à 120 ans. Mais le meilleur, c'est-à-dire qu'on continuera toujours à se battre, à avancer, à évoluer, à survivre. Et c'est vraiment pour ça que j'écris de la science-fiction aussi. C'est parce que je veux non seulement, croire à ces lendemains qui continuent, à cette vie qui continue et qui, de toute manière, continuera à s'épanouir. Mais en plus, j'essaye, à ma petite manière d'auteur, de faire passer le message que, les gars, on est toujours en vie et on va continuer à l'être, quoi, si on se pousse un petit peu.
Ça marche, là ?
Ouais. Oui.
Donc, moi, je crois que je dois faire le scientifique sérieux, là. C'est moi. Et je pense que je suis bien d'accord quand même qu'on peut évidemment avoir une réponse un peu ambivalente à cette question, parce que je pense qu'on a de très bonnes raisons d'envisager des choses affreuses, puisque le présent nous prouve qu'elle se déroule effectivement. Et puis on a aussi très bonne raison d'imaginer qu'il va y avoir plein de belles choses. Et je pense que c'est un des points sur lesquels ça peut être intéressant de discuter, c'est à quel point, déjà c'est intéressant de distinguer les aspects recherche scientifique et tentative de compréhension, ou je dirais plutôt d'interprétation, de conception du vivant, du monde en général, à distinguer de la technologie, qui est ce qu'on peut en faire, et puis bien voir que dans une technologie, il y a quasiment toujours des phases lumineuses et des phases sombres. C'est extrêmement difficile de penser à une avancée technologique qui n'aurait pas des conséquences désastreuses comme des conséquences magnifiques. Et, donc je pense que la question va plus être qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on découvre, d'un point de vue, je suis plus dans l'anticipation du coup, que qu'est-ce qu'on va découvrir et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est beaucoup, 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 et toujours plus, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on va s'autoriser à faire, ça c'est autre chose.
Si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit aussi, disons dans les plusieurs casquettes que tu m'as données tout à l'heure, très gentiment, il y en a une dont tu n'as pas parlé, enfin, en tant qu'auteur, je fais à la fois de la science-fiction et de l'historique. Et je pense que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que pour voir ce que nous réserve l'avenir, se rappeler aussi parfois que finalement, le fait que chaque invention a son côté sombre et son côté lumineux, le fait que notre période a des aspects difficiles, mais bon, c'est pas la première et c'est pas la dernière, le fait que quelque part, le vivant, c'est ce qui n'est pas immuable, c'est ce qui détruit toujours pour créer autre chose, s'en rappeler, le voir dans l'histoire ancienne, ça permet aussi de se projeter dans le futur de manière beaucoup plus consciente, en sachant que finalement les interrogations qu'on se pose aujourd'hui peuvent faire écho largement aux interrogations que se sont posées. Donc, pour parler de périodes dans lesquelles j'ai un peu écrit, par exemple, les Romains qui assistaient à la fin de leur empire, ou aussi donc, les hommes de la Renaissance qui assistaient aux premières découvertes de leur époque et aux premières avancées de la médecine de leur époque, en tout cas. Et finalement, ces questions-là, c'est des questions qui font écho à celles qu'on retrouve aujourd'hui. Et quand on voit que ces questions-là ont été résolues et finalement ont été résolues pour beaucoup à notre avantage, on peut se dire que les questions d'aujourd'hui seront résolues aussi pour le plus grand bénéfice des hommes de demain. En tout cas, on va tout faire pour.
Une réaction, non ? Pas très... Bon, sinon, il y a plein de... au niveau de création, modification du vivant, il y a plein de choses qui se font actuellement. Notamment, récemment, il y a des scientifiques qui ont mis au point donc, des bactéries, des cyanobactéries, donc des petites algues qui permettent, qui vont fabriquer des biocarburants. On a modifié des algues de manière à ce qu'elles fabriquent des choses qui nous arrangent. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui se font en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez que ça puisse être est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet?
Ouais, ben, je pense que comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement bien des raisons de penser qu'on va pouvoir faire énormément de choses parce qu'on peut déjà le faire. Et moi, j'ai de ma relativement brève expérience de la recherche en biologie, qui a une quinzaine d'années, j'ai constaté des progrès quasiment exponentiels dans beaucoup de domaines qui sont centraux par rapport à ces questions de manipulation du vivant. Donc il y a notamment les techniques de séquençage de l'ADN. Pour vous donner un ordre d'idée, le séquençage du génome humain qui a été fait en 2000, ça a pris à peu près 2 ans de travail et des centaines de millions de dollars et d'euros, puisque ça a été fait de part et d'autre de l'Atlantique. Aujourd'hui, ça prend une semaine et ça coûte 10 000 dollars. Donc il y a vraiment des changements radicaux dans les capacités d'analyse et aussi de synthèse. Tu parlais tout à l'heure de modification du vivant, mais on arrive également maintenant à créer, à resynthétiser des génomes. Donc il y a des gens qui essayent de voir comment on peut resynthétiser de l'ADN et intégrer cet ADN dans une enveloppe qui propice à son développement, à sa réplication, et donc refaire en quelque sorte un être vivant. Ça, c'est des choses qu'on sait maintenant faire avec des micro-organismes très petits. Donc je pense que effectivement quand on parle classiquement de la manipulation du vivant, on pense aux OGM. Ça, c'est des techniques qui sont maintenant courantes, qui sont couramment utilisées dans les laboratoires pour étudier par exemple l'effet de tel gène ou tel gène chez une drosophile ou chez une petite mouche, hein. La drosophile, c'est nos petites mouches favorites, ou chez la souris, etc. Donc c'est des techniques qui sont très largement utilisées, qui sont évidemment utilisées également à des fins technologiques, et on le sait bien, et ça pose un certain nombre de questions. Donc oui, je pense que ce genre de choses se fait, va se faire de plus en plus. Et encore une fois, la question de à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, ça ne va pas vraiment être quelle va être la limite, mais plutôt est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une prise plus d'ordre éthique, politique que technique sur ce qu'on veut faire avec tout ça. Est-ce que par exemple, Est-ce que le clonage, qui est maintenant assez facilement accessible pour tout un tas de gros mammifères, qui officiellement n'a jamais été fait sur l'homme, mais je ne vois pas bien comment on va empêcher le développement d'une telle technologie, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement des gens qui ont l'argent et qui peuvent peut-être contourner les interdictions qui existent. Donc le clonage humain, il y a des chances que ça se fasse. Comment on va régler ça? Comment on va décider de gérer ce genre de problème? Mais je pense que ça va se faire techniquement.
C'est sûr que ça va se faire, mais là on part tout de suite sur des trucs, je ne sais pas vous, mais moi quand on dit OGM, je n'ai pas forcément une sensation de sympathie immédiate. On est un petit peu méfiant. Les OGM, ça pose deux problèmes, même si ça permet d'avoir des variétés particulièrement résistantes. Il y a ce dont parlait Sylvain, on met tous ces pouvoirs entre les mains de multinationales ou en tout cas de structures qui ont des intérêts économiques. Donc, je ne sais pas, en tant qu'auteur, mais même en tant que citoyen, on sait qu'on peut se retrouver dans des processus où des multinationales vendent des semences stériles qui oblige les gens qui s'en servent à se fournir systématiquement chez le producteur en n'étant plus du tout autonome. Donc ça, c'est un risque, c'est un choix économique hein, qui peut nous conduire à ces dérives-là. Enfin, le fait qu'on a confié le fait de prendre des décisions non pas à des citoyens, non pas à des mécanismes sociaux discutés. Il y a Estelle qui piaffe là, mais attends,
non,
je vais dire des trucs à
l'envers. Non, au contraire, j'aime bien ce que tu dis, donc vas-y.
Donc, là, on est tout à fait d'accord avec Sylvain. Ce qu'il faut inventer, c'est les mécanismes de régulation, c'est les processus qui font qu'on va prendre le contrôle, qu'on va décider collectivement de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Moi, là, j'ai une confiance totale dans la science, je la trouve fascinante, passionnante. Je ne suis pas du tout rassurée sur le fait que on soit capable de mettre en place autre chose que des intérêts privés pour décider de ce qui est bon pour nous. Quand on voit des sociétés pharmaceutiques qui, dans certaines circonstances, trouvent qu'il est plus lucratif de fabriquer un médicament que de vacciner des populations, par exemple, et que, dans la circonstance, ils ont parfaitement le choix de la politique qu'ils vont adopter face à une maladie qu'ils pourraient prévenir, tout ça c'est très inquiétant. Je pense qu'on arrivera un jour que la nécessité nous obligera à fabriquer des mécanismes de régulation, mais à côté de ça, puisque je prends le micro, je le garde 3 minutes là. Y a des trucs passionnants qui se passent. Sylvain nous parlait des clones, mais globalement le fait qu'on soit capable non pas seulement d'aller chercher des cellules souches chez le fœtus, mais de faire régresser des cellules humaines à l'état de cellules souches et après de les faire se redifférencier comme on veut. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais j'ai cru comprendre que ça se passait comme ça. Ça veut dire qu'on peut régénérer à peu près n'importe quel organe ou qu'on pourra bientôt. Donc on peut réparer à peu près n'importe quoi. On peut effectivement dupliquer, cloner. Enfin, ça ouvre. On peut éventuellement envisager de fabriquer des immortels, mais là aussi, il y a des choix de société. En tout cas, c'est complètement fascinant comme hypothèse. Mais moi, il y a autre chose, pour rester dans notre thématique, que je trouve encore plus fascinant. On en parlait dans une autre table ronde hier, je suis désolée pour ceux qui y étaient, mais c'est le fait de travailler avec des bactéries. Et il y a des laboratoires de biologie en ce moment où on travaille sur des bactéries que l'on modifie parce qu'elles ont des séquences ADN assez simples, de manière à leur donner des propriétés permettant par exemple de dépolluer des sols, de dépolluer des eaux. Ça, c'est complètement fascinant et magique. Donc, avant même de se dire qu'on pourrait transformer des plantes ou des animaux et puis peut-être ouvrir la boîte de Pandore à des choses un petit peu inquiétantes, bah déjà, si on avait des bactéries qui pouvaient nettoyer nos eaux usées, ce serait pas mal.
C'est pas plus rassurant, ceci dit.
Oui.
Que ce soit dans un micro-organisme ou dans une grosse plante, les conséquences sont tout aussi difficiles à prévoir, en fait.
Oui.
Je pense que ça ajoute, quand on parle des OGM, il y a effectivement les problèmes socio-économiques qui sont centraux, et puis il y a les problèmes environnementaux qui sont assez difficiles à maîtriser.
ça devient contagieux après. C'est pas comment ça se répand.
Voilà, on ne sait pas. Enfin, et puis évidemment, donc OGM, c'est un gros mot qui peut vouloir dire plein de choses. Tout dépend de ce qu'on met dans l'organisme. Hein, quand on intègre un nouveau caractère dans un organisme, si on met une toxine contre les insectes, c'est pas la même chose que si on met quelque chose qui va faire plus de sucre. A priori, il n'y a pas les mêmes risques, par exemple, pour la santé humaine, puisqu'une toxine pour un insecte, c'est une toxine pour l'homme aussi en général, et pas que pour l'homme. Donc juste pour dire que la nuance à faire entre les macro-organismes et les micro-organismes, il n'y a pas à être plus rassuré du fait de modifier des bactéries que de modifier des plantes. Elles sont tout aussi nombreuses, abondantes, et donc, voilà, elles sont là, autour de nous.
Si je peux revenir sur le sujet des OGM et des clones, donc plus du côté SF de la chose. Disons, l'idée de créer des chimères, de créer des animaux transformés, finalement, ne m'effraie pas particulièrement parce que c'est quelque chose qui, ne serait-ce que quand, par exemple, on a fait se croiser des chiens jusqu'à obtenir des races qui sont quasiment pas vivables, quoi. Enfin, des chiens qui ont des problèmes de santé dès leur un an parce qu'ils ont des pattes trop petites, des nez trop petits. Bon, ça, on a déjà un peu fait, quoi. On y a survécu. Maintenant, ce qui se passe sur les OGM.
Nous, oui, mais pas tous les chiens.
Ah, bah oui, voilà, ça c'est le souci. Donc, je ne dis pas que c'est forcément, comment dire, c'est pas du tout positif, mais voilà, c'est pas le. Pour moi, c'est pas la principale question. Par contre, quand vous parlez, bah, par exemple, de semences stériles, d'OGM qui ont une toxine contre les insectes. Par exemple, quand on parle du clonage, alors pour le côté SF, jetez-moi des cailloux si vous n'aimez pas l'auteur. Mais ça me fait beaucoup penser à la fin des particules élémentaires de Welbeck. Personne ne jette des cailloux, d'accord. Et c'est-à-dire où vraiment par le clonage, on atteint le rêve d'une humanité soi-disant parfaite, mais qui est une humanité complètement asexuée, qui est une humanité débarrassée de ses doutes, de ses peurs, et de ses défauts, bref, de tout ce qui rend l'humanité intéressante. Et derrière un certain rêve de clonage ou d'OGM, je vois par contre là se profiler quelque chose de mortifère qui est justement la fin de la modification, arriver à une sorte d'état fantasmé ultime à partir duquel on ne bougerait plus. Et c'est ça qui est mortifère, c'est en fait cette idée de modifier le vivant jusqu'à l'arrêter à un état stable, à un état clean, à un état propre, à un état sans émotion, sans défaut. Et voilà, ça me fait beaucoup plus peur que les pensées de créer des chimères, de créer des frics ou des lapins avec des pattes palmées, quoi.
Moi, j'ai pas trop peur de la perfection parce que je pense que la route est longue encore et qu'on en est encore loin. Mais je sais pas si c'est dans la thématique de parler d'eugénisme ici. L'eugénisme, c'est pas exactement travailler sur la mutation et la transformation du vivant, c'est juste sélectionner les fœtus qui ont le plus de chances de survie et qui ont développé des capacités qu'on juge meilleur ou préférable. C'est vrai que ça peut ouvrir la porte à pas mal d'inquiétudes aussi. Ceci dit, l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport au fait d'être parfait, une humanité parfaite, ça a donné lieu au moins à une œuvre de science-fiction que moi je trouve absolument magistrale. Et là, je la cite, j'ai pas peur que vous me jetiez des cailloux parce que je vois pas qui pourrait mal réagir. C'est le cycle de la culture de Ian Banks. C'est une humanité qui a résolu tous ses problèmes. Bon, pour un auteur, il faut de toute façon qu'il y ait des conflits à la marge, il faut qu'il y ait des péripéties, sinon c'est assez difficile de raconter une histoire où tout va bien, parce que quand tout va bien, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais dans le cycle de la culture, l'humanité, et en particulier ceux qui vivent sous le régime de la culture, ils ont résolu aussi bien leurs problèmes physiologiques que matériels. C'est une société extraordinaire, c'est une société de un peu de dandy au sens où ils n'ont pas de soucis, ils n'ont aucun problème d'aucune sorte. Du coup, ils n'ont plus que le souci de trouver comment passer leur temps de la manière la plus intéressante possible et la plus agréable possible. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle la société de la culture. La plus grande source de jouissance pour beaucoup de gens, c'est la connaissance. Et oui, c'est une société stable, la culture, mais elle est fascinante.
Disons, parce que, enfin, évidemment, Ian Banks, c'est un auteur fascinant. Maintenant, ce que j'opposerais un peu, c'est quand on parle, par exemple, donc, d'immortalité ou de longévité sans avoir forcément de combat à mener, sans avoir d'adversaire à affronter, qu'il soit intérieur ou extérieur, Ça me fait beaucoup plus penser donc, à la scène de la boîte de nuit des vampires dans Blade 2. Oui, la référence est un peu moins... voilà, mais c'est aussi ça, la SF, c'est de pouvoir mêler les grands auteurs et les films de vampires. Et il y a notamment ce plan, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous souvenez, où on voit des vampires se faire ouvrir le dos pour se faire remplacer la colonne vertébrale par des colonnes vertébrales en or. Et quelque part, ça dit quelque chose de ce que pourrait être l'immortalité, à fortiori l'immortalité, quand finalement, on a résolu tous ces problèmes. C'est qu'on trouve tellement plus rien à faire que, bah, qu'on en est à se faire remplacer la colonne vertébrale par une colonne vertébrale dorée, finalement, il faut bien trouver de quoi s'occuper, quoi. Et pour finir, et là je vais un peu reprendre le côté politique de la chose qui a été un peu évoqué par Sylvie déjà, aussi dans tous les rêves d'immortalité, ou les rêves de clonage, d'humanité parfaite, j'aimerais beaucoup croire que ça pourrait exister pour une grande majorité de la population. Maintenant, en petite réaliste pragmatique là-dessus, j'ai surtout des rêves qui risquent de concerner, s'ils se réalisent, une minorité d'ultra-privilégiés, ça arrangera pas forcément les choses.
Puis ça pose aussi la question de qu'est-ce que la perfection, et donc du coup, à quoi on se réfère.
A fortiori, en plus, dans l'hypothèse ultime, on arriverait à une humanité entièrement composée d'immortels, ça serait la première porte ouverte à tous les fascismes possibles, parce que finalement, qu'est-ce qui permet par exemple aux révolutions en révolte d'exister ? C'est le fait que, de toute manière, toutes les vies humaines ont une fin. Donc on peut risquer sa vie pour la liberté. Mais si ce qu'on risque, c'est l'immortalité complète, là, le prix à payer, il est vachement plus lourd. Et est-ce qu'il ne va pas beaucoup plus faire hésiter des gens ? Est-ce que finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est plus les gens peuvent vivre vieux, plus les gens peuvent vivre en bonne santé, plus ils deviennent pusillanimes, plus ils ont peur de... La peur ultime maintenant, c'est de se prendre un coup de poing dans la rue pour certains. Alors que finalement, ça fait beaucoup moins mal qu'avoir ces libertés qui sont réduites peu à peu. Mais quand on a une éternité devant soi, est-ce qu'on va la risquer pour défendre autre chose ? Je ne suis pas sûre que beaucoup d'humains seraient capables.
Il y a un beau film sur ce thème-là, c'est Zardoz, avec sa société d'immortels.
Et avec
s'enferme.
Des super costumes.
Oui. Mais c'est un film... On peut considérer que c'est un nanar, mais c'est un film qui a beaucoup de charme et qui pose la question de l'immortalité d'une manière intéressante.
Qui pose trois questions, mine de rien, sous une forme par ailleurs très baroque.
Alors, tout à l'heure, je disais tout, à peu près tout sera possible et on parle d'immortalité. Et en fait, là, moi, j'ai du mal à suivre. C'est quoi l'immortalité dans ces œuvres-là ou dans vos esprits
Alors c'était une hypothèse extrême, mais déjà une très longue vie en très bonne santé. Si on peut tous atteindre à une très longue vie en très bonne santé, je pense qu'on va beaucoup plus hésiter avant de prendre des risques potentiellement les deux.
Donc c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, en fait, une très longue vie en très bonne santé. Enfin, disons que le problème sera toujours repoussé à une plus longue vie en meilleure santé.
Ah mais déjà, on a déjà quand même... Bah justement, c'est ce que disait donc notamment Doug Stanhope. C'est, on sera sans doute les premières générations à trouver que les générations qui nous succèdent, enfin, souvent dans l'humanité, on trouvait que les générations qui succédaient étaient beaucoup plus risque tout, étaient beaucoup plus badass, étaient un peu, voilà, étaient pires que nous. Et finalement, on va sans doute être les premières générations à trouver que les générations d'après sont quand même trop calmes, trop sages, trop gentilles par rapport à nous, et ça commence à arriver déjà. Et est-ce qu'il n'y a pas une conséquence justement de cet allongement de la durée de vie, de cette... Enfin, après, on vit plus longtemps en meilleure santé pour certains Européens privilégiés aussi. Il faut rappeler qu'en ce moment, il y a Ebola qui ravage à peu près toute l'Afrique, donc... C'est à limiter aussi. Dans...
Ouais. Oui, et puis considérer qu'on est dans un univers agréable, utopique, où tout le monde vit dans des conditions parfaites. Je suis désolée, mais c'est pas trop ce que je vois autour de moi.
Hein. Pareil, hein, c'est vraiment voilà. Donc oui. Dire qu'on est déjà dans un univers, oui, où on vit vieux en bonne santé, dans de bonnes conditions.
C'est pas ce que je voulais dire. A priori, enfin, moi, ça me paraît même tout simplement inaccessible cette idée de. D'une société parfaite où on vivrait longtemps et où on serait bien. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de...
Ce qui est sûr, c'est que ce serait difficile d'y raconter des bonnes histoires si tout allait bien.
Après, oui, il y a la question de l'individualisme. Je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est qu'au final, dans une société parfaite, du coup, tout le monde pense dans la même direction. Il n'y a pas de...
Alors, si on en vient là, c'est la question des utopies. Et en tant qu'auteur, on a tous eu envie d'essayer d'écrire des utopies et de raconter ce que pourrait être un monde idéal. J'ai essayé aussi, comme à peu près tout le monde. Et le constat que j'ai fait après avoir essayé, c'est que, effectivement, l'utopie, ce serait une société dans laquelle tout le monde serait heureux. Si tout le monde était heureux, c'est ce que disait Estelle, personne n'aurait envie de modifier quoi que ce soit. Mais du coup, il n'y aurait plus rien de moyen de bouger dans cette société. Et donc, ce serait d'une certaine manière une société totalitaire, parce qu'une société qui refuse le moindre changement est une société figée dans laquelle on ne peut plus avoir un avis divergent, parce que peut-être que globalement la société va opposer une inertie absolue. Et une société totalitaire, ça devient tout de suite une dystopie, c'est-à-dire le contraire d'une utopie. Il faudrait réussir à inventer une utopie dans laquelle les choses peuvent bouger et dans laquelle, surtout, chacun conserve sa liberté individuelle et son libre arbitre. Mais ceci dit, moi, l'inquiétude politique que j'ai par rapport à notre société, c'est ça qui est bien. Quand on est auteur de SF, on peut dire des choses sur n'importe quel sujet sans avoir honte, on s'en donne le droit. C'est une liberté qui est géniale. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une société qui résonne de manière de plus en plus individualiste et à court terme. Ou je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais ça me frappe que plus on est dans des situations difficiles, et on n'est pas dans une situation très facile actuellement, économiquement et socialement, plus chacun raisonne pour lui-même et à court terme. Où est-ce qu'il va trouver des avantages ? Et on est dans un monde et sur une planète où on a des inquiétudes globales et où il faudrait qu'on arrive à raisonner à la fois collectif et à long terme. Et ça, on est mal équipé pour le faire. Moi, ce que j'aimerais qu'on trouve comme mutation du vivant, c'est un truc qui nous aide à changer notre manière de penser pour qu'on soit moins individualiste court terme. Alors, je ne sais pas si les biologistes peuvent nous aider à ça, mais je pense que ça nous ferait sacrément du bien.
C'est marrant parce que juste avant de critiquer l'individualisme, tu as rappelé que le plus important c'était de pouvoir maintenir les libertés individuelles.
Tout à fait. Et on est plein, il y a plein de paradoxes.
Donc effectivement, il y a des paradoxes de ce type. Et moi, ça me donnait envie de rebondir sur le fait de voilà qu'est-ce qui effectivement est-ce que c'est la liberté individuelle qui est vraiment au cœur des choses ou est-ce qu'il y a d'autres niveaux de liberté ? Est-ce que finalement l'individu est un niveau parmi d'autres d'organisation ou du vivant. Et je pensais par exemple au fait que, effectivement, la société actuelle tend à devenir de plus en plus individualiste. Et c'est sans doute lié au fait que il y a beaucoup d'expériences de psychologie, notamment, qui montrent que c'est pas mal lié à la taille des groupes humains, des tailles des groupes d'interaction. Et qui montrent, et ça, c'est des choses qui collent bien avec à la fois de la théorie et de l'expérience sur. L'évolution de la coopération, c'est que globalement, c'est les interactions répétées entre les organismes qui tendent à faire évoluer de la coopération entre eux. Et plus les groupes sont de grande taille, et plus ils sont diffus, plus on est connecté dans des réseaux qui sont en fait diffus géographiquement, etc. Et moins il y a le ferment pour ce type de comportement.
Oui, en même temps, enfin, on parle d'individualisme. Moi, ce que je vois au contraire dans le monde actuel, on aime se penser en individualisme. Maintenant, on est dans un monde qui se communautarise au contraire de plus en plus, où chacun se revendique de l'appartenance à telle ou telle communauté, va essayer d'en adopter les attitudes, d'en adopter les codes. Et disons, on se fantasme, oui, en individualisme, mais est-ce qu'on cherche avant tout ? Très souvent, c'est la réplication du même. Et quelque part, derrière les pensées du clonage, ce qui se dessine aussi, c'est ce rêve d'un même absolu. Parce que finalement, on pourrait avoir des individus qui soient tous absolument identiques à leurs voisins, avec les mêmes pensées, la même manière de réagir, les mêmes envies, les mêmes intérêts. On aurait une communauté parfaite. Et voilà, c'est l'aboutissement du rêve communautaire au travers du clonage qui doit pousser sans doute à interroger beaucoup plus les aspects communautaristes de notre société que les aspects individualistes au final.
Ben, je ne suis pas sûre qu'on ait des communautés qui soient beaucoup plus intelligentes que les individus qui la composent à l'heure actuelle.
Ah, certainement pas.
Oui, donc est-ce que en bâtissant des groupes sociaux, même de la taille idéale dont nous parlait Sylvain, on n'a pas réussi. Moi, il y a une chose que j'avais trouvée fascinante, que j'avais découverte en particulier grâce à un auteur qui n'est pas un auteur de science-fiction du tout, qui s'appelle Hofstadter, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gödel, Escher et Bach ». Gödel, le mathématicien qui a déstabilisé beaucoup d'autres mathématiciens, Escher qui nous fait des perspectives impossibles et des dessins en trompe-l'œil, et Bach, le musicien. Et entre autres dialogues, éléments qu'il citait, il y avait la différence entre la fourmi et la fourmilière. La fourmi, c'est l'individu. A priori, la fourmi a l'impression d'un libre arbitre, parce que probablement, enfin, il est probable qu'elle ait un faible degré de conscience, mais... à son propre niveau, elle fait en gros ce qu'elle veut. Elle a envie d'aller à droite, elle a envie d'aller à gauche. Elle a un tropisme fort pour aller dans le sens de ce que lui font percevoir ses antennes et son sens olfactif. Mais bon, elle a quand même une petite marge de manœuvre. Mais globalement, la fourmilière a un comportement, des réactions, une manière de se comporter qui est tout à fait autre chose que ce que l'on obtient quand on raisonne à partir de la stratégie, du raisonnement d'une fourmi. C'est pas l'addition d'un ensemble de comportements individuels, le comportement de la fourmilière dans son ensemble. Donc, je sais pas si nous, êtres humains, on est capable de faire ce saut-là. Je sais pas si les communautés humaines peuvent, à un niveau critique, à la bonne dimension, avec les bons processus, acquérir une forme d'intelligence qui passerait au-dessus. C'est une belle idée à explorer, en tout cas.
Mais en même temps, est-ce que c'est souhaitable vraiment que l'intelligence de la communauté prenne le pas sur l'intelligence de l'individu ? Est-ce qu'on ne va pas plutôt avoir un réseau d'individus qui arrive à fonctionner harmonieusement, ou en tout cas au moins à aller vers autre chose qu'une destruction de masse, sans passer forcément par une oblitération des individualités ? Parce que, par exemple, dont tu parles, là, on est plus dans la psychologie que dans la biologie, mais ça me fait pas mal penser donc, à la saga du Malkin d'Olivier Paquet, dans les auteurs de science-fiction français, si vous ne connaissez pas, c'est super bien. Mais qui est un rêve d'une humanité qui s'est éclatée dans l'espace et qui, sur chaque planète, a recréé l'une des cultures de la Terre en faisant un conditionnement avant la naissance à tous les enfants pour qu'ils acceptent complètement tous les codes de cette culture. Qui ne les remettent jamais en cause. Alors ça fait des planètes où la vie est très harmonieuse, mais on sent bien qu'il manque quelque chose. Et ce qui est très fort dans ce cycle, justement, c'est que l'auteur ne porte pas de réponse définitive sur ce communautarisme à l'extrême qui donne un monde très pacifié. Mais il dit quand même que l'humanité a gardé un rêve, qui est le Malkin, qui est un vaisseau fait tous les morceaux de vaisseau de l'expansion, dans lequel montent ceux qui veulent échapper, justement, à leur conditionnement, ceux qui veulent autre chose. Et avant tout, ce qui est important, c'est de conserver voilà, ce rêve d'autre chose que la communauté, d'autre chose que le même. Parce que finalement, ce qui fait avancer l'humanité, c'est la différence. Ce n'est pas le même, ce n'est pas le semblable.
J'avais envie de réagir sur deux, trois éléments de votre conversation. On a parlé de fourmis, puis on a parlé d'hommes, et puis on a parlé un peu d'intelligence. Et puis, on s'est demandé à un moment si les fourmis avaient de l'intelligence. Et je pense que c'est intéressant de noter que on peut voir des comportements effectivement à l'échelle de la fourmi ou à l'échelle de la fourmilière qui sont codifiés, qui ressemblent à des réactions, etc., à un environnement changeant. Et puis évidemment, tout ça, c'est pas de l'intelligence comme on l'appellerait. Donc je pense que se poser la question de comment s'organise la vie des fourmis et qu'est-ce qui ressort de l'organisation de la fourmilière. Elles ont l'air de vivre en bonne intelligence. Est-ce qu'on peut essayer de traduire ça à l'espèce humaine, par exemple, et se demander comment on pourrait organiser notre vie pour vivre en bonne intelligence? Je pense que c'est difficile de faire ce parallèle parce que ce n'est pas du tout la même intelligence qu'il s'agit. D'un côté, on a des comportements qui sont stéréotypés et sans doute avec un déterminisme génétique très fort, donc avec en fait une marge de manœuvre relativement faible chez les fourmis, alors que chez nous, vraisemblablement, il y a une marge de manœuvre extrêmement importante les comportements qu'on va vouloir avoir dans tel ou tel contexte. Et puis l'autre chose qui me donnait envie de réagir, c'était tu as parlé en fait de l'individu fourmi et de l'individu fourmilière. Ça, c'est un peu mon domaine de recherche, donc j'ai envie de rebondir là-dessus. La question des différents niveaux d'individualité en fait, et le fait que le vivant peut se regarder vraiment à toutes les échelles d'organisation et ce type de raisonnement que tu as fait sur la fourmi, en fait, on constate qu'il existe à toutes les échelles et qu'on est une multitude d'empilements déjà de ce type. Ça veut dire que ce qu'on va, nous-mêmes, on a tendance à se considérer assez facilement comme un individu. Si on nous demande ce que c'est qu'un individu, on va pouvoir dire nous-mêmes, mais nous-mêmes, on est déjà 10 puissance 13 cellules qui sont associées, donc qui sont en grande partie clonales. Et vraisemblablement, c'est pour cette raison qu'elles coopèrent de manière relativement harmonieuse. Relativement parce que pas totalement. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer ? Ben, c'est des cellules qui sont en train de se faire la malle.
Ou une maladie auto-immune.
Il y a des cancers d'ailleurs qui se font la malle pour de vrai. Hein. Chez les chiens, il y a un cancer qui se promène depuis 500 ans parmi les chiens, sexuellement transmissible. C'est des cellules d'un chien qui sont devenues cancéreuses et qui ont acquis une capacité d'autonomie. Et on a réussi à les retracer et ça fait 500 ans qu'elles se promènent.
Et elles vont chez un autre chien ?
Chez un autre chien, oui.
Ah,
ouais. Sur les parties génitales, puisque c'est sexuellement transmissible.
Charmant.
Chez le diable de Tasmanie, qui a des mœurs un peu particulières, il y a aussi un cancer transmissible.
On raconte avec des détails, ah, ouais. C'est tout intéressé.
Transmis par la morsure, en l'occurrence, parce qu'ils se mordent à longueur de temps, les diables de Tasmanie. Et pour le coup, c'est un vrai danger pour cette espèce actuellement. Tout ça pour dire que les niveaux d'individualité sont multiples. Il y en a certains qui nous sautent aux yeux et d'autres qui ne nous sautent pas aux yeux, mais qui pourtant sont là. C'est-à-dire qu'ils correspondent à un certain niveau d'organisation auquel on pourrait donner un sens biologique, au sens de il y a des phénomènes biologiques qui n'ont de sens qu'à ce niveau-là. Ils n'ont de sens, quel est le sous-entendu pour un biologiste quand il dit ça n'a de sens qu'à ce niveau-là ? C'est il y a de la sélection naturelle qui a fait qu'à un certain niveau, c'est avantageux, visiblement, d'avoir ce type de comportement. Par exemple, il y a des gènes à l'intérieur d'un organisme qui vont jouer contre les autres, qui vont jouer solo, et qui vont avoir des gros désavantages sur l'organisme lui-même, mais qui vont avoir des gros avantages pour eux-mêmes. Donc il y a plein d'exemples de ce type, il y a des exemples dans toutes les espèces, et ça nous amène à voir que voilà, l'individu qu'on regarde comme un ensemble a priori harmonieux, ça aussi c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire que les notions de conflit et de coopération, elles existent à tous les niveaux, en fait. Et donc effectivement, elles vont aussi exister à un niveau non seulement infra-individu, mais à un niveau supra-individu, c'est-à-dire une fratrie, par exemple, c'est déjà à un certain niveau un individu. Il y a un certain niveau d'individualité. Une communauté peut aussi l'être à certains égards. Et voilà, pourquoi c'est pas seulement des termes et c'est pas seulement du vocabulaire. L'idée qu'il y a derrière, c'est que la sélection naturelle, en fait, agit à différents niveaux. Elle agit, par exemple, à des niveaux qui vont faire que ça va favoriser tel gène qui peut jouer solo. Mais elle peut aussi agir à tel niveau qui va faire que les gènes vont jouer ensemble, de manière plus coopérative, ou que les individus, vous et moi, peuvent jouer aussi de manière coopérative. Et donc, c'est voilà, le sens biologique qu'on va donner à ça, c'est à quel niveau c'est adaptatif, on appellerait ça adaptatif. Voilà. Donc, il y a des...
Oui, mais ici, on est dans un festival dont la thématique globale est l'écologie. Et puisque tu nous dis que ça peut marcher à plein de niveaux... c'est vrai qu'en gros, la vision actuelle qu'on a de l'écologie, ça consiste à considérer qu'on a un système complexe, qu'on peut appeler Gaïa, par exemple, et qui a besoin de diversité pour fabriquer son équilibre. Est-ce que c'est un système au sens où tu viens de nous en parler ? Et si oui, le fort interventionnisme de l'homme dans l'équilibre de Gaïa, est-ce que l'homme sera capable d'intervenir ou est-ce que c'est Gaïa qui va réagir et nous envoyer promener ? Est-ce que l'analogie avec les niveaux de vivant dont on parlait fonctionne encore ?
La question peut se poser et pour répondre à ça, il faut faire peut-être un tout petit peu de théorie l'évolution. En gros, l'idée, c'est que donc l'évolution telle qu'on la conçoit depuis Darwin en a acheté les bases et puis que ça s'est beaucoup enrichi depuis, c'est que on peut partir d'un monde même minéral pour réfléchir à ça, en imaginant que s'il y a des entités qui sont capables de se répliquer, c'est-à-dire de reproduire quelque chose qui leur ressemble, et ces entités ont tendance à devenir de plus en plus fréquentes dans le milieu. C'est une évidence de dire ça, en fait. Et effectivement, il y a des composés chimiques dont on peut voir qu'ils ont une propriété de ce type. Et donc, s'il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, voilà, il y en a de plus en plus. Et puis, il peut y avoir aussi des erreurs dans ce mécanisme de « je recopie le même ». Et c'est ce qu'on va appeler la mutation, quand on réfléchit avec le vocabulaire courant. Et puis cette mutation va faire, par exemple, que l'entité en question va se reproduire mieux ou moins bien. Si elle se reproduit moins bien, elle va devenir plus rare. Si elle se reproduit mieux, elle va devenir plus fréquente. Et puis vous laissez ce truc-là se dérouler sur 4 milliards d'années, et puis vous arrivez au joyeux bazar qu'on connaît actuellement. En gros, le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de base qui est la réplication ou la reproduction, et puis il y a de la variation dans ce système, et puis la sélection naturelle peut agir. Et donc, le fondement de cette idée, c'est que l'évolution adaptative, donc l'adaptation au sens où le biologiste l'entend, c'est, par exemple, il y a une perturbation de l'environnement, une température qui augmente, ben, il va y avoir par hasard une erreur, une mutation, dont je parlais tout à l'heure, qui va faire qu'un des organismes va mieux s'en sortir dans ce milieu-là, il va donc devenir de plus en plus fréquent, et il va porter en lui le caractère qui fait qu'il s'en sort bien, il va le transmettre à ses descendants, et donc on va voir à la fin une adaptation, qui est que, ben, il porte le caractère qui permet de vivre bien dans cet environnement. Et donc ça, c'est un exemple très simple, mais ben, on peut considérer que le fait d'avoir un pouce opposable, c'est une adaptation, le fait de pouvoir respirer, parler, etc., c'est une adaptation. Et quelle est l'idée fondamentale derrière tout ça? C'est qu'il y a forcément un moment de la variation. Il y a un type d'individu qui pouvait faire ça et puis d'autres qui ne pouvaient pas faire ça. Et ce qui a fait que ça a évolué, c'est que ben justement, il y avait un différentiel dans la capacité de survie et de reproduction de ces deux entités-là. Et donc, pour pouvoir pousser le raisonnement jusqu'à un écosystème, on peut le faire en principe. Mais il faut imaginer qu'il y a plusieurs écosystèmes et que ces écosystèmes sont en compétition, pour dire les choses simplement. Mais finalement, on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y a plein de petites îles. Sur chaque île, il y a un écosystème. Et puis, si sur certaines îles, on se met sur la gueule à longueur de temps et que ça va très mal, et ben, à la fin, il n'y a plus rien. Et puis, si sur d'autres îles, éventuellement, il y a plus de coopération, et ben, les choses vont pouvoir fleurir et puis éventuellement essaimer sur d'autres îles, etc., vont devenir plus fréquentes. Mais pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a différentes entités au départ. Et c'est pour ça que je pense que l'hypothèse de Gaïa ne tient pas dans ce raisonnement-là, parce que a priori, il n'y en a qu'une de Terre. Et donc, il n'y a pas d'autres Terres qui actuellement auraient d'autres dynamiques, par exemple.
Sauf dans le Space Opera.
Sauf dans le Space Opera. Mais effectivement, en gros, il n'y a pas de raison théorique de s'opposer à l'idée qu'il puisse y avoir un certain niveau d'organisation qui corresponde à l'écosystème, mais pour ça, il faut qu'il y ait des entités différentes. Et donc pour la Terre, a priori, ça coince.
C'est pour ça qu'il faut terraformer Mars. Donc, solution numéro 1. Et sur tout ce qui est justement donc le darwinisme et l'évolution, bon, c'est peut-être un tout petit peu tirer le sujet vers l'extrême, mais aussi, il y a une question que se pose la science-fiction actuelle, alors pas celle que j'écris, mais une partie de celle que je lis ou que je vois en film, qui là-dessus me paraît à la fois intéressante et mine de rien assez inquiétante. C'est est-ce que le monde que nous sommes en train de créer, notamment dans les sociétés de consommation occidentales, n'est pas en train de dénaturer la base de la sélection naturelle? Je veux dire, je pense à un film comme Idiocratie, par exemple, où on est dans un monde où finalement, voilà, enfin, je pense que voilà, c'est. Et qui, mine de rien, montre un monde où c'est pas forcément donc, le plus habile ou le plus fort qui survit, mais juste celui qui a fait le plus de mots parce que finalement il pouvait le faire. Et cette idée que le monde qu'on est en train de créer est tellement non naturel qu'il va privilégier en quelque sorte des caractéristiques qui ne sont pas celles qui naturellement auraient prévalu. C'est une des questions que pose la SF aujourd'hui, et c'est pas l'une des plus inintéressantes, je trouve, même si c'est pas les miennes en tant que d'autres.
Bah, je peux essayer de donner une réponse courte à ça, c'est qu'il n'y a pas de... La sélection naturelle, c'est pas bien ou pas bien en soi. J'aurais pas envie de dire non, on doit laisser faire la sélection naturelle, parce que la sélection naturelle, c'est pas une règle absolue. Il n'y a pas... C'est juste un phénomène, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a certains caractères qui font qu'on a plus de bébés que d'autres, ou des caractères qui se transmettent mieux que d'autres, même d'une manière plus générale, sans penser à la reproduction, eh bien, la sélection naturelle continue à exister. Est-ce qu'elle change? Bien sûr qu'elle change, elle change tout le temps. Donc c'est pas, je ne dirais pas que c'est bien ou pas bien, en tout cas.
Ce que je veux dire, c'est pas tant est-ce qu'on a plus de bébés que d'autres selon des caractères naturels, mais pour le coup, selon des caractères uniquement, comment dire, pour le coup, psychologiques. C'est-à-dire, par exemple, que des gens plus cultivés, qui vont faire plus attention, qui vont être dans des environnements plus privilégiés, vont avoir moins d'enfants parce qu'ils veulent mieux les élever. Ce qui fait que, paradoxalement, on aura plus d'enfants
dans des environnements moins privilégiés et qui eux-mêmes donc seront plus enclins à développer justement des environnements moins privilégiés. Après, c'est pas du tout ma science-fiction à moi, donc c'était voilà, parce que ma science-fiction à moi est de croire que de toute manière, à un moment ou à un autre, ça va assez mal se passer pour qu'on se remette en cause.
Sauf si donc éventuellement, si on imagine effectivement le scénario dont tu parlais, ben tu peux aussi imaginer que ceux qui font pas beaucoup de bébés créent des centres culturels, des MJC par exemple, et puis que ben, les bébés des autres vont profiter des... Donc en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a des biais de transmission des caractères qui ne sont pas que verticaux.
Ah non, mais
du coup, ça change... Non, mais je ne dis pas du tout.
Mais après, on peut arriver à l'humanité des Ardoz aussi, c'est-à-dire un petit groupe de privilégiés, super cultivés, super intelligents...
Mais ils n'ont pas d'enfants, eux.
Voilà, qui en plus ne font même pas d'enfants, et qui survivent dans leur bulle au milieu d'un monde complètement dévasté. Donc il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles à partir de là.
Mais moi, j'avais une question à poser à Sylvain, et qui est un autre problème par rapport au processus de sélection et aux adaptations darwiniennes, c'est que, tu nous l'as bien dit, ça, on raisonne sur 4 milliards d'années. Ce genre de phénomène, ça se passe sur une échelle temporelle très très longue. Les mutations, des mutations stables, pour ce que j'en sais, tu corriges si je dis des bêtises, mais... plus de 95% des mutations spontanées diminuent les chances de survie chez celui qui les subit. Donc il y a très peu de mutations, il y a une très faible proportion de mutations qui vont dans un sens bénéfique, au sens de maximiser les chances de survie. Et en plus, elles peuvent se produire chez un individu et pas être transmises. Il faut vraiment beaucoup de temps pour qu'une mutation se généralise, se stabilise et ça se compte en milliers d'années en gros. Et je ne suis pas sûre qu'on les ait, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on a drôlement intérêt à muter, y compris nous, êtres humains. Moi, je me dis, on a plutôt que d'essayer de dépolluer les sols, enfin, c'était aussi le sujet d'une autre table ronde, mais c'est une belle hypothèse. Ce serait drôlement intéressant de réussir à nous transformer, nous, pour nous adapter au changement climatique, au changement de l'environnement et se sentir bien dans le monde qu'on a transformé et qui va probablement se restabiliser dans un état un peu différent de celui qu'on a connu, nous. Mais on a intérêt à donner un coup de pouce parce que si on est 3 ou 4 000 ans avant d'arriver au bout de ce processus en laissant faire la nature, dans 3 ou 4 000 ans, je ne sais pas où... Sur quelle planète on habitera ?
Alors, non, ça ne prend pas toujours beaucoup de temps.
Oui.
Ça peut aller très très vite. J'ai travaillé sur un papillon, par exemple, qui était martyrisé par une bactérie qui tuait tous les mâles dans cette espèce pour des raisons complexes qu'on ne va pas trop évoquer. Mais globalement, ça avantageait la bactérie de tuer tous les mâles. Donc, il y avait presque plus de mâles dans cette espèce. Et puis, un jour, il y a une mutation qui est apparue. Donc, effectivement, ça n'arrive pas tous les jours, hein, mais il y a une mutation qui est apparue qui fait qu'une femelle a pu produire des fils qui étaient infectés par la bactérie et qui s'en sortaient très bien. Donc, ces fils se sont retrouvés les rois du harem, là. Et en 10 générations, cette mutation, ce qu'on appelle, s'est fixée dans la population. C'est-à-dire que le problème a été tordu. Alors, ça veut dire que la sélection naturelle peut faire les choses très, très vite si la pression de sélection est très, très forte. Mettons par exemple une guerre nucléaire d'enfer, quelques individus résistants à je ne sais quelle radiation qui constituent un petit groupe humain, bah, il va y avoir une sélection très forte sur ces caractères. Donc, quelque part, la solution biologique au sens de l'espèce va-t-elle s'en sortir ? Je pense qu'elle est toujours là, à peu près. Aujourd'hui, on n'est pas encore 9 milliards, pardon. On est 7 milliards. Il y a une diversité génétique phénoménale. Toutes les mutations possibles se produisent en moyenne 5 fois par génération. D'accord ? On a un génome qui est très grand, ça fait 3 milliards de bases, mais on est vachement nombreux, et puis chaque fois qu'on fait des bébés, y a une trentaine d'erreurs en moyenne. Et donc vu qu'on est vachement nombreux, et chaque mutation existe en de multiples copies sur la planète. Par exemple, dans d'autres espèces, quand on balance des insecticides à tout va dans différents endroits, on voit des résistants apparaître dans différentes populations. Ça veut dire que le phénomène évolutif, en fait, il n'est pas si lent que ça.
Chez les virus, il va très vite.
Alors, chez les virus, c'est les champions. C'est les champions parce qu'ils sont tellement petits qu'ils peuvent se permettre d'avoir un taux d'erreur gigantesque. Donc, ils ont un très fort taux d'erreur. Et il y a une espèce de relation entre combien de lettres tu es obligé de recopier correctement. Donc, c'est-à-dire que si tu as 3 milliards de lettres, tu es obligé d'avoir quelque chose de plus fiable que si tu as 500 lettres. Ce qui est à peu près le génome minimal d'un virus. Et donc pour dire que ça peut aller très vite, et je pense qu'il faut distinguer la solution biologique du style est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce que quelqu'un va réussir à manger le prochain polluant affreux ? De comment on va s'en sortir ? C'est-à-dire que si sur le chemin il y a 99% des personnes qui meurent, c'est qu'on s'en est quelque part pas bien sorti, quoi, même si on s'en sort. Donc et puis juste peut-être pour tu disais on pourrait se donner un coup de pouce, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire se donner à chacun, par exemple, la modification qui ferait que. Donc ça, c'est plus du tout le même processus que la sélection naturelle, tu vois.
C'est plus. Peut-être le provoquer chez tous les fœtus.
Voilà, donc ça, c'est l'idée que on donne un coup de pouce à chacun et non pas. Il y a un truc qui marche et celui-là fait plein de bébés. Donc c'est pas du tout la même dynamique. Voilà, pour dire que ce serait une autre solution. Je pense qu'elle n'existe pas entre nous, mais.
Mais aussi à ta question, comment peut-on s'en sortir, moi j'aimerais quand même en rajouter une, et qui me paraît que la question de prospective finalement la plus intéressante, c'est surtout pourquoi on doit s'en sortir, pourquoi on veut s'en sortir, pourquoi s'en sortir, c'est-à-dire le fait qu'on survive toujours, bien sûr c'est une super chance, mais c'est aussi un très gros risque, c'est-à-dire qu'on peut survivre finalement et puis rester dans notre petit marasme, voire accroître ce petit marasme. Et pour citer pour le coup quand même un des grands fondateurs là-dessus de la science-fiction, pour citer Asimov, alors tarte à la crème mais j'assume, il y a un livre d'Asimov qui est un des plus courts, mais qui dit quelque chose là-dessus d'être très pertinent je trouve, c'est La fin de l'éternité, People in the Sky en VF, en VO pardon, et qui montre donc une humanité qui est justement tellement centrée sur la Terre, tellement occupée à se préoccuper de comment survivre au mieux sur la Terre, qu'elle en a oublié le rêve de l'espace. Et là, ce que je vois, ce qui se produit en ce moment, justement en se demandant comment survivre à la pollution, comment dépolluer les sols, au contraire, comment s'adapter à la pollution, c'est très bien, on se centre de plus en plus sur notre bonne vieille Terre, au lieu de continuer ce qui pourtant était l'un des mouvements de base et l'un des mouvements les plus précieux de l'humanité, c'est-à-dire continuer à aller vers l'horizon, quoi. Et si on est des mutants qui survivent sur une Terre polluée, mais finalement ça va pas si mal, ça nous donnera encore une bonne raison de rester accroché à notre sol et de surtout pas chercher à aller voir plus loin. Et ça, c'est finalement ce qui me semble le danger ultime, beaucoup plus que la destruction de l'espèce, qui en effet est sans doute beaucoup plus un fantasme d'invasion zombie ou de I am legend qu'une réalité scientifique.
Voilà, donc sur ce point très positif, nous allons donner la parole au public si vous souhaitez poser des questions.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, justement sur l'espace, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé l'année dernière et on n'a pas du tout compilé en fait le rêve de l'espace, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a au niveau international, il y a des compétitions entre différentes nations pour savoir qui sera le premier à justement à Mars ou la Lune et comment on peut rendre ça viable. C'est même un projet qui est très sérieusement en cours aux États-Unis, concernant Mars, quelque chose comme ça. Et du coup, le rêve de l'espace existe, mais moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est en quoi est-ce que c'est un rêve, en fait. Parce que si on n'est pas déjà capable d'assurer notre survie sur une planète, qu'on a étudié, clairement, pourquoi aller ailleurs ?
Alors, deux choses. Déjà, j'ai pas mal d'astrophysiciens autour de moi qui, en effet,